regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles, toi depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir, je dois t'avouer que tu m'attires. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles, toi nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles, toi depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir, je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut, vers le haut.
D'être dans le journal. Benjamin Maréchal.
Et ce matin, à moins d'un mois de sa retraite totale, c'est donc Yves Van Lathem, l'infectiologue et spécialiste des maladies tropicales, qui mérite d'être dans le journal. Quand il entre à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles en 1978, la médecine est-elle ce qu'elle est aujourd'hui? A-t-il eu les oreilles qui sifflent quand il est devenu porte-parole interfédéral Covid et qu'on a beaucoup parlé de lui? Et cette passion du voyage, nous racontera-t-il l'Asie qu'il connaît si bien? Vous le saurez en écoutant celui qu'on appelait Monsieur Covid et qui mérite d'être dans le journal. Bonjour Yves Van Lathem et bienvenue. On croyait que vous étiez déjà retraité. Eh ben non, 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 non. Vous aviez encore des consultations à l'hôpital Saint-Pierre?
Oui, oui, tout à fait. Donc maintenant va arriver la retraite, après la retraite. Mais j'avais encore trois, selon les semaines, entre deux et quatre consultations. Donc deux et quatre demi-journées d'activité par semaine à l'hôpital Saint-Pierre.
Donc c'est bizarre de dire cette fois c'est la bonne, parce que c'est comme si on voulait se débarrasser. Mais donc cette fois c'est la vraie, vraie, vraie retraite. Donc quel âge avez-vous officiellement au compteur?
À 71 ans et un mois.
Ouais, donc hôpital Saint-Pierre, c'est fini. Alors vrai retraité, quelle est votre date exacte de départ?
À le 31 mai.
31 mai, donc vous êtes plutôt dans cet état d'esprit-là. C'est pour avoir un peu l'ambiance du moment, vous êtes plutôt là-dedans?
Oh oui, je suis un petit peu dans cette fin de piste-là, effectivement. Lorsque l'avion a atterri, c'est un petit peu comme le dernier Sabena là, qui atterrit et puis qui arrive en bout de piste.
Non, c'est triste raconté comme
mais
ça.
Mais sauf les pompiers Naros, ça pareil, bien sûr.
Oh, sinon j'avais ça, mais on n'est pas là-dedans, alors. Non, vous n'êtes pas bon débarras, alors. Non, vous n'êtes pas là-dedans, quoi. Non, et pas dans le... Quand vous racontez ça comme ça, j'ai l'impression de vous voir marcher sur le tarmac de l'aéroport en disant adieu l'ami.
Comme Lucky Luke qui s'en va vers le soleil couchant, mais sans cigarette bien sûr. Ouais.
Bon, coupe ta musique, tu vas me mettre le cafard. Donc Yves Van Lathem, alors à quelques jours du vrai départ, on va quand même voir ce que vous allez faire maintenant et quelle est votre vie, puisque vous aviez moins d'activité évidemment qu'à la grande période. D'abord, c'est la voix de l'ordinateur qui vous questionne, vous pouvez mettre le casque sur les oreilles. Je sais que vous avez l'habitude de travailler avec l'humain et les patients, mais nous on sous-traite avec l'ordinateur.
Bonjour monsieur le virologue, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Est-ce que vous avez attrapé le Covid pendant toutes ces années?
Alors oui, j'ai attrapé le Covid que j'ai envie de dire, comment dire à Bruxelles.
Attends, mais...
au sens que j'ai fait un petit Covid un week-end, petit frisson, test vaguement positif, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose. C'est le seul que je me suis connu sur cette durée-là.
Ah bah tant mieux, Covid que, même si le cordonnier est le plus mal chaussé.
En 1978... le petit Yves diplômé de médecine entre à l'hôpital Saint-Pierre. Couple, parents, cote. Faites-nous un portrait en quatre lignes de ce petit jeune homme.
Ah ouais, ça c'est pas mal ça.
Alors,
En
quatre lignes, eh bien en 1978 j'étais célibataire, j'habitais chez mes parents et j'étais, comme durant toutes mes études, très studieux, très appliqué.
Et vous entrez alors à Saint-Pierre déjà comme virologue, comme spécialiste des maladies infectieuses ou vous entrez comme médecin classique?
Alors en 1978, j'entre pour commencer mes 5 années d'études de médecine interne, donc la spécialisation après la fin de la médecine.
Ok, le petit Yves était célibataire, merci pour le portrait de l'époque.
Vrai ou faux, vous étiez un ami de Lou Deprecq, le chanteur?
Alors j'ai connu Lou Deprecq en tant que patient à un moment, et puis effectivement on a un petit peu discuté entre nous, on a s'en trouvé des points communs, ça peut paraître bizarre parce que le personnage est quand même très différent de moi, et c'est vrai qu'on avait une certaine connivence, attendez.
Ah, il était chanteur loufoque, fantasque, mais génial. Et donc votre point commun c'était quoi? C'était la musique ou c'était le...
C'était entre autres le voyage. C'est un homme qui bougeait sans arrêt d'un bout du monde à l'autre, entre la Thaïlande, entre l'Australie, les États-Unis, l'Europe. C'est un homme qui aimait découvrir un tas de choses et donc c'était un des points communs.
Il revenait toujours de quelque part, c'était marrant. Donc ami de Lou Deprecq, ok.
Pourquoi vos verres de lunettes sont fumés?
Et même pas aujourd'hui en plus. Ils sont pas fumés aujourd'hui vos verres.
Mais logiquement ils devraient l'être puisqu'ils fument automatiquement. C'est purement une question de sensibilité à la lumière. Et ça me permet effectivement de ne pas, entre autres en voiture, devoir jongler avec des verres de soleil et de lunettes de soleil et autre chose. Et donc c'est une question de facilité, de confort.
Ah,
et
vous êtes photosensible?
Petit peu, en tout cas. Suffisamment pour que ça soit moins confortable quand j'ai trop de lumière dans les yeux.
Vous voulez qu'on baisse un peu ici, dans le studio Bellertel, ou pas?
Non, ici, ça va être tout à fait convenable comme ça.
Parce qu'ici, il y a un éclairage néon blanc type hôpital. Je suis sûr qu'à Saint-Pierre, c'est encore plus sexy qu'ici. C'est fort blanc, vous trouvez pas que ça fait hôpital un peu?
C'est fort blanc, mais vos murs sont bien colorés de rouge, donc ça va bien.
Ok, merci pour le quart d'heure mode, la suite.
Vous allez quitter l'hôpital Saint-Pierre dans quelques jours. Quelle décoration personnelle allez-vous reprendre chez vous?
Alors, je vais reprendre chez moi, d'une part, un certain nombre de maquettes d'avions des années 30, 40, entre autres des avions de transport. Ouais. Tout ça évoquait le voyage qui se trouvait à la Travel Clinic. Et aussi une sorte de grande toile qui vient du pays Dogon au Mali, qu'un patient m'a offert et qui reprend un petit peu des symboles, y compris des symboles de la lutte contre le sida, des symboles Dogon. Et c'était une toile qu'il a fait faire spécialement pour moi il y a plus de 25 ans.
Ah, c'est drôle. Le pays Dogon qui est devenu célèbre avec Rendez-vous en Terre Inconnue, je pense, puisqu'ils ont fait une aventure là-bas. C'est là que le grand public a découvert.
Quand vous découvrez l'existence du Covid, vous n'êtes pas en Belgique. Où étiez-vous?
Alors j'étais dans un de mes grands périples, et ça c'était le périple Australie-Nouvelle-Zélande, pendant 3 mois effectivement, et j'ai suivi là-bas la naissance, si on peut dire, du Covid, en rendant pas beaucoup compte d'ailleurs que ça aurait l'ampleur que ça a pris, et c'est quand je suis rentré en Belgique le 1er mars que le premier cas autochtone a été diagnostiqué ici.
C'est vrai que ça fait partie de la pièce d'histoire. Tout le monde se demande où il était quand on a appris le 11 septembre 2001. On se demande où on était quand on a appris le Covid. Une petite dernière peut-être.
Qui signe le plus d'autographes? Vous ou Julie, frère de Testacha?
À mon avis, Julie, frère, doit en signer beaucoup plus que moi.
Non, ils vous en signez quelques-uns quand même, en vrai.
C'est pas tellement des autographes. Heureusement, on est passé aux selfies. Hein. Ça m'a permis d'éviter les autographes, mais le nombre de selfies, ça n'a pas été triste, effectivement.
Ah, vous le dites qu'un Belge sur deux a peut-être un selfie avec Ivan Latem. Et en blague, on a été faire la photo aussi avec Ivan Latem quand il est arrivé tout à l'heure dans le couloir. Si vous voulez faire la conversation avec celui qu'on appelait avant Monsieur Covid, qui part bientôt à la retraite, c'est 33-23, 25 centimes le message.
Il mériterait d'être dans le journal.
Alors, déjà, toutes mes excuses. Pourquoi Alison vous tourne autour depuis une heure? Elle a renversé son chocolat chaud. Ça va le petit ménage?
Bah ouais, mais ça m'ennuie vraiment, vraiment, là.
Ouais. Ça fait 10 minutes que j'essaie de discuter avec Monsieur Vallatem et je sens que ça chipote et que ça éponge et que ça lave. Mais ça va, t'es propre, là?
Bah, je sens un peu le chocolat.
Désolé, Monsieur Vallatem, vous seriez venu un autre jour, elle sentait le parfum, mais là, voilà.
C'est le housekeeping.
Voilà. Ouais. The Jackson's 5, Can You Feel It sur Bel RTL. tout le monde fait sa conversation tranquille ou pépère. Les Jackson sur Bel Air Tel, Yvonne Latem, avant le départ à la retraite, le vrai, j'allais dire l'ultime, c'est bizarre dit comme ça, vient nous raconter un peu qui il est. Ça vous a manqué de plus venir à la télévision ou à la radio tous les jours, toutes les semaines? Il y a eu un manque ou pas, à un moment?
Mais il y a eu une sensation, effectivement, d'autre chose qui se passait tout d'un coup. Alors un manque, il faut bien avouer que ça me faisait pas mal de trajets dans tous les sens, pas mal d'obligations, donc il y avait un point positif à ne plus être là. Mais c'est vrai que j'ai rencontré un tas de gens que j'avais commencé à que j'appréciais, parce qu'effectivement, on avait passé quand même des moments parfois un peu complexes ensemble. Ah. Et ce sevrage était un petit peu, pas seulement la télévision en tant que télévision, mais en contact avec des gens que je n'avais plus, était un petit peu...
Mais donc genre ce lourd. Matin, le fait de revenir à RTL, à l'accueil, de monter, vous frôlez la rédac, vous arrivez en studio, c'est un moment anecdotique là, ou c'est un truc qui vous rappelle un petit souvenir?
Ah non, c'est le pied, effectivement. C'est un moment qui me rappelle un tas de choses. Du parking jusqu'au studio.
Ah, c'est les Madeleines de Proust, les petits souvenirs de... Bon, alors on marque une pause. Il faut absolument, monsieur Van Lathem, que vous nous racontiez cette passion du voyage. On dit que vous êtes si passionné que ça. J'ai la carte sous les yeux. Je mettrai une punaise à chaque endroit où vous êtes passé après la pub.
Il mériterait d'être dans le journal. Reviens dans quelques instants sur Bel RTL.
Quand tu parles, je me sens tout à l'envers. Je voudrais être Superman, qu'on fasse le tour de la Terre. Je sais, l'amour c'est pas sérieux, il ne fait beau qu'un jour sur deux. Je sais que ça peut rendre malheureux, et ça fait quoi, ça fait quoi? Je sais que t'as un peu le vertige, qu'un jour ou l'autre on se néglige. Mais moi j'aime bien trop la voltige, et ça fait quoi, ça fait quoi? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'envole ou pas? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'arrête là? Dis-moi, dis-moi, si tu t'élances ou pas, quand tu tomberas, ce sera dans mes bras. Ce sera dans mes bras. Quand tu chantes, je me sens tout bizarre. Je descends et je remonte la pente. Peur de l'altitude, t'inquiète, elle change de certitude. Tu verras, tu verras. Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'envole ou pas? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'arrête là? Dis-moi, dis-moi, si tu t'élances ou pas, quand tu tomberas, ce sera dans mes bras. Ce sera dans mes bras. Est-ce qu'on s'envole ou pas?
Mériterait d'être dans le journal.
Mais où va Yvan Lathem dans le monde? Donc Yvan Lathem, on l'a connu comme porte-parole interfédérale Covid. Vous aviez encore une consultation à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Mais le 31 mai, à 71 ans, l'hôpital vous dit au revoir. Je le dis comme ça parce que c'est l'hôpital qui vous dit stop, c'est pas un choix personnel de partir.
Non, c'est l'hôpital qui dit stop. Alors je m'étais promis, il y a de nombreuses années, de m'arrêter à 70 ans. J'en ai 71, donc l'hôpital, d'une certaine manière, me remet dans ma ligne de conduite telle que je l'avais décidée, mais c'est vrai que c'est lui qui a choisi, c'est pas moi.
Et vous partez avec le sentiment du devoir accompli ou vous avez un petit goût de trop peu là?
Non, je pense qu'effectivement, lorsqu'on a travaillé dans un hôpital pendant maintenant 46 ans, C'est pas mal. Oui. Je pense qu'effectivement, on peut considérer que le devoir est accompli, comme vous le dites, d'une certaine manière. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on a goûté quelque chose qui nous plaît viscéralement pendant 46 ans, ben, c'est toujours un peu difficile, comme la Madeleine de Proust, comme vous dites, de l'abandonner un jour au coin d'une assiette.
C'est plus facile de partir quand le travail, effectivement, est harassant, pénible et qu'on n'en veut plus. Alors, il y a le travail. D'un côté, on vous a beaucoup connu, évidemment, dans vos analyses de Covid et dans votre métier de virologue. Ce qu'on sait moins, c'est votre passion du voyage. On est dans les années 60-70. C'est votre tante qui vous initie au voyage. Qui est cette femme et elle vous emmène où?
Alors, c'est effectivement la sœur de ma mère qui était célibataire et qui aimait bien voyager. On a voyagé, à l'époque, j'avais entre 12 et 18 ans, on a voyagé en Suisse, ça peut paraître banal, puis on a été en Tunisie, puis on a été au Maroc, puis on a été en Égypte. Et effectivement, à cette époque-là, on est quand même dans les années 60-70, c'est pas mal de faire la Vallée des Rois, c'est pas mal de faire le tour des villes impériales.
C'est donc c'est pas des voyages voyage. Type club jetter, j'appelle ça les clubs jetter, c'est où on va une semaine en bord de piscine, c'était pas ça les voyages avec votre tante?
Ah non, tout à fait, c'était des voyages tout à fait culturels. On est descendu en France comme ça, la Vallée du Rhône et autres, en voiture avec elle. J'étais jeune écolier à cette époque-là, il faut bien l'avouer. Et donc c'est un peu elle qui m'a initié à la culture du voyage, à la découverte. Et après, j'ai continué de moi-même sans aucun problème.
Vous vous souvenez du premier voyage que vous avez fait alors en solo, quand vous êtes reparti avec votre propre argent et que c'était plus la tante qui menait?
Alors j'ai un package là de 2-3 voyages, je ne sais plus lequel c'était. C'était un tour des capitales des pays de l'Est. J'étais très fanat des pays de l'Est à l'époque. J'avais une tendance sociologue communiste comme
il y avait
beaucoup de jeunes à cette époque-là aussi. D'une part, et d'autre part, j'ai été en Islande. Voilà un petit peu deux des endroits. Et alors, à la fin de mes études de médecine, pendant un mois et demi, on est parti en traversant l'Inde et le Népal, par exemple.
Je peux faire de la psychologie de bord de route et de comptoir, enfin, ou de la voyance ou du médium, mais c'est pas un hasard. Vous êtes passionné par le voyage, ça a été constitutif de votre vie. Et aux surprises, votre compagne est d'origine asiatique. Et donc, c'est le monde, effectivement, et le voyage. Elle est d'où, votre compagne?
Ma compagne est philippinaise, effectivement. Elle vit depuis de longues années en Belgique, mais elle est philippinaise, effectivement.
C'est elle qui vous fait découvrir le pays ou vous aviez découvert les Philippines avant?
Alors, les Philippines, non. C'est elle qui me l'a fait découvrir. On était 3 fois aux Philippines. Mais c'est vrai que je n'avais jamais été auparavant. Pays, d'ailleurs, extrêmement étonnant, puisque c'est un pays catholique au plein milieu d'une Asie qui est, elle, là, entre le monde musulman et le monde bouddhiste ou hindouiste. Et donc, c'est tout à fait curieux à découvrir.
J'ai du mal à voir ce qu'il y a de l'ordre du voyage personnel, de l'envie de voyager et de ce qui est la passion du médecin, parce que vous êtes virologue, mais aussi spécialiste des maladies tropicales, enfin des maladies du bout du monde, de ces maladies-là. Vous alliez pour voir des médecins, pour voir des virus, pour voir des situations sanitaires, ou vous voyagiez vraiment?
Alors, il y avait plusieurs choses. Il faut bien avouer aussi qu'il y avait des congrès auxquels j'assistais. Parce que pour les congrès, c'était un peu comme pour l'école, ou pour le reste, j'étais extrêmement assidu. Mais après les congrès, je prenais éventuellement une semaine ou deux de vacances. Et donc, lorsque le congrès se passait à Singapour, à Hong Kong ou à d'autres endroits, bien, ça me permettait de faire un saut vers le Laos, le Cambodge, la Birmanie, d'autres zones du monde, et de découvrir là la réalité des pays en tant que découverte du pays, en tant que découverte des beautés du pays, et indirectement de m'intéresser à l'état de santé. Mais c'est vrai que là, la santé était au plan secondaire, j'ai envie de dire.
Vous savez que ça intrigue Michel au 3323 qui vient d'envoyer un message, SMS. Avez-vous déjà envisagé, Monsieur Van Lathem, d'être médecin sans frontières? Parce qu'il y a une logique. Goût du voyage, maladie tropicale, médecin sans frontières, il y a une logique.
Eh bien, j'aurais voulu faire effectivement mon service militaire en tant qu'opérant à l'étranger, mais ça me posait un problème parce que si je partais à l'époque, l'hôpital ne me garantissait pas de me reprendre.
Ah,
et donc, j'ai fait un service militaire ici en Belgique. Là, il n'y avait pas de problème. Je pouvais faire ma spécialité en médecine tropicale en même temps en Verse. Donc, j'ai fait un service militaire, la spécialité en médecine tropicale et travailler à l'hôpital en même temps. Mais c'est ça qui m'a empêché d'une certaine manière de faire un service civil, un service de médecin à l'étranger, comme j'ai pu le faire, par exemple, avec MSF ou autre chose.
Mais ça n'a pas empêché les longs breaks. Quand vous faites Australie, Nouvelle-Zélande, cette zone du monde où vous découvrez le Covid à distance, c'était quoi? C'était un voyage de 4 mois, de plusieurs mois que vous aviez fait?
C'est un voyage que j'ai pu faire parce que j'étais pensionné. Et effectivement, à partir du moment où j'étais pensionné, j'ai pu vraiment faire des longs voyages, traverser pendant 3 mois le Canada, traverser pendant 3 mois l'Australie, la Nouvelle-Zélande, comme on l'a fait à cette époque-ci, partir dans le sud-est des États-Unis il y a un an et demi. Et ça, c'est possible quand on a plus de temps et avec l'âge venant, un peu plus d'argent aussi.
Bah, il faut s'y retrouver aussi, parce que donc chez Ivan Lathem, il y a la retraite 1, et là, on est à la retraite 2. Mais il n'y a pas encore la retraite du Conseil supérieur de la santé. Donc, je planifie déjà que vous reviendrez pour la retraite 3. On va faire une chose à la fois. D'abord, Lara Fabian qui est là, et on est donc dans le moment de la retraite numéro 2. Voici ta peine.
Tourne la roue du temps. comme avant. Avant que je t'aime puis qu'on se perde. Avant que la vie ne soit trop chienne. Reste, reste tout près de moi. Moi j'ai besoin de toi. Toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil. Pareil, pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine, je la jetterai à la mer. Mon capitaine, il sera comme des enfants qui se souviennent. Reviens, tu peux poser ta main sur la mienne. On ira danser la valse des peines. Rien n'est fini entre nous. J'ai la force d'un fou. Et que crève ce diable que tu aimes. Il ne sait rien de ce que tu veux. On s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine. Je la jetterai à la mer. Mon capitaine, il sera comme des enfants qui se souviennent. Et si c'était moi, la magicienne, qui guérit les enfants qui se souviennent.
Ah bah elle aussi c'est une voyageuse, Lara Fabian, c'est un point commun avec Yves Van Lathem. Vous avez déjà rencontré Lara Fabian, parce que je mène que de plateau en plateau, vous croisez des gens, vous l'avez déjà rencontré?
Non, on s'est jamais croisé, nulle part.
Ah bah voilà, bah elle était là, à distance, par chanson interposée. Alors vous êtes l'homme du voyage, voyageons. Monsieur Van Lathem. On a toujours parlé Covid avec vous, on a toujours oublié de parler des maladies tropicales et des maladies de voyage, donc je vous demande de prouver que vous êtes un vrai médecin ce matin. Vous me définissez en une phrase à chaque fois toutes ces maladies dont on parle, mais que personne ne sait expliquer. Le choléra, c'est quoi en une phrase ?
Une diarrhée cataclysmique liée à une bactérie très contagieuse.
Ouf, cataclysmique ? Attends, Gabriel a l'image aussi.
Et ça noie autre chose que ce qui était noyé par le chocolat de Madame la Tante.
Je rappelle qu'Alison, la copropriétaire de l'établissement, a tout renversé. Je regarde. Ok, c'est propre, c'est nickel. La malaria, en une phrase.
Un moustique qui vous transmet un parasite qui peut vous tuer si vous ne faites pas attention.
L'hépatite A.
Ou soit simplement un petit virus qui vous donne une inflammation du foie. Rarement très grave, mais assez fréquente chez les voyageurs non vaccinés.
Oh, une question de quelqu'un de l'équipe. La chlamydia, c'est quoi ?
Alors ça, il y en a plusieurs, mais disons que celle auquel on fait d'habitude référence, c'est celle qui touche les organes sexuels, et donc une maladie sexuellement transmise, qui est peu grave en elle-même, mais qui peut donner la stérilité tant chez l'homme que chez la femme.
Le chikungunya.
Un charmant petit virus transmis par un virus... Ah bah, par un virus, mon Dieu, que dis-je. Un charmant petit virus, donc, transmis par un moustique diurne, le fameux moustique tigre, hein, et qui donne de fortes fièvres et des douleurs articulaires.
Ebola ?
Ebola, ça, c'est pas un charmant virus du tout, qui est effectivement transmis par le fait de manger de la viande de brousse contaminée ou entre personnes, et qui donne une mortalité qui est entre 30 et 60%.
Et vous, dans votre vie, donc, vous avez croisé des patients, croisé des gens qui avaient... un de ces bazars-là, alors, c'était ça votre quotidien de médecin ?
Un de ces bazars-là sans problème, pas Ebola, heureusement pour moi, ouais. Mais un de ces bazars-là sans problème, c'était mon quotidien, comme celui de l'HIV, comme celui de la tuberculose, comme celui des germes multirésistants dans les hôpitaux, comme un tas de choses de ce style-là.
Ah ouais, donc ces grandes épidémies qui ont traversé le monde et l'actualité aussi. Monsieur Van Lathem, on va se faire deux, trois questions qui fâchent après la pub.
Bonne matinée sur Bel RTL.
Bel RTL.
On est là pour s'entendre.
Dans le journal.
Mais est-ce qu'il répond aux questions qui fâchent ? Alors, il est retraité bientôt, le 31, c'est ça, votre date, monsieur Valentem, 31. Mais est-ce qu'il est susceptible ? Dans les questions qui fâchent, allez avouer, passage en politique, ils ont tous été courtisés, vos collègues, les virologues, les trucs, tout le monde a été démarché dans les médias. Qui vous a proposé un poste en politique, monsieur Van Lathem ?
Je ne l'ai pas caché, effectivement. Hein, les engagés m'ont proposé un poste en politique.
C'est tout ?
C'est tout.
Oh !
Oui, juste un petit client, manifestement.
Oh ! Et vous avez réfléchi combien de temps ?
Ah, j'ai réfléchi quand même. J'ai réfléchi pendant un certain temps pour essayer de positionner tant l'individu, l'âge de l'individu, la fonction de l'individu, et ce qu'est devenu, malheureusement, pour moi, la politique pour l'instant, ouais. Et tout ça ensemble a fait que ça a été un non.
Mais donc c'est drôle, ça, c'est le médecin qui fait des analyses de risque, quoi. Il a mis tout dans la balance, vous avez fait tous les rapports, et c'est un non. C'est un non de vous, ou c'est un non familial, ou c'est une décision en solo?
C'est une décision personnelle par rapport au fait que je pense qu'il est un peu tard, à 71 ans, de s'engager, justement, c'est l'occasion de se dire,
ouais.
Même si on est en faveur d'un certain nombre de points.
Donc la proposition est récente.
La proposition récente au sens qu'elle date de la préparation des élections, donc les derniers mois, va-t-on dire.
Donc récent quand même, question qui fâche. Là, quand vous étiez porte-parole interfédérale, vous disiez partout que vous n'étiez pas payé pour ce job, mais que vous pouviez défrayer vos kilomètres. Alors, est-ce que vous avez fait vos notes de frais? Et est-ce que l'État vous a remboursé?
Tout à fait.
On sait comment ça va, les notes de frais. C'est la même chose dans toutes les entreprises.
Eh bien là, l'État était honnête, effectivement. Il a accepté mes 15 000 kilomètres qui sont justifiés chaque fois par les émissions qui étaient derrière, les trajets qui étaient derrière. Et effectivement, en ayant le mois et demi après avoir déposé la note, ça a été payé.
C'était pas très original, à mon avis. C'était domicile Van Lathem, RTL, domicile Van Lathem, RTBF, domicile Van Lathem, RTL, peut-être LN24 aussi un peu. Ouais.
Exactement, vous rajoutez par-ci, par-là, à l'hôpital, vers RTL, etc. Mais c'était pas très original. Oui.
Ah ouais, donc le gars qui a analysé les notes de frais, il a pas dû se marrer. Mais donc ils ont remboursé, ça c'est une bonne chose. Quand on se moquait de vous, parce qu'il y a eu beaucoup de parodies, d'humour et aussi de commentaires disgracieux, vous avez souffert un peu ou pas ?
Absolument pas.
Jamais ? En vrai ?
Non, en vrai, vraiment pas, parce que toute une partie qui était les cartoons et le reste, j'ai beaucoup apprécié, au point d'en faire deux albums complets qui ressemblent à des albums de bande dessinée, parce qu'on les envoyait d'un peu partout et ça me faisait rire. Et tout ce qui était éventuellement, comme vous dites, disgracieux dans les commentaires, était sur Internet, et tout ce qui était circuit social au sens large du terme, un peu par mon âge et un peu par ma personnalité, je les ai complètement ignorés.
Ouf, avec recul. Saviez-vous que cet homme était devenu une égérie de la mode contemporaine ? Nous appelons donc la mode. C'est vrai, parce que la spécialiste mode dans l'équipe, c'est Alison. Vous pouvez me décrire ce sac. Qui a un sac avec sa tête, à part Yves Van Lathem ? Il y a un sac Yves Van Lathem. Vous pouvez me le décrire, ce sac, Alison ?
Oui, alors c'est un tote bag en toile. ils se sont inspirés donc d'une marque très très connue donc, dont je ne citerai pas le nom.
Yves Saint Laurent.
Mais
ah, c'est là qu'on est complémentaires. Moi,
donc YVL et avec la tête donc de Monsieur Van Lathem sur le sac.
Tête sur un sac, c'est classe quand même, non?
Non, tout à fait. Il est toujours à la clinche de la porte quelque part à la maison.
Ouais.
Ah. Oui, tout à fait.
Ah bah alors on appelle
il est chouette.
Ah ouais, non, il est chouette. Il est design. On appelle le créateur du coup de ce sac, ce tote bag, nom d'artiste de celui qui est derrière, Kettle, qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez créé ce sac. On était au moment du Covid. Vous nous remettez dans le contexte.
Alors, effectivement, c'est moi qui l'ai créé. Le contexte, il était assez simple. C'était une période du Covid où finalement, tous les jours, on regardait la télé pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire et ne pas faire. Et suite à une demande de ma compagne d'avoir un sac avec la tête d'Yves Van Lathem, je me suis dit, mais en fait, Yves Van Lathem aujourd'hui nous dicte un peu la mode du jour. Et donc, c'est de là que s'est transformé le Yves Saint Laurent.
Vous saviez, Yves Van Lathem, que c'était la madame de qui voulait votre tête sur un sac?
Absolument pas.
Ah, c'est drôle, ça. Et vous en avez fait faire combien, du coup, Kettle?
Suite à la médiatisation, j'ai laissé la possibilité aux gens de le commander et de le produire pour eux. Et on est à plusieurs centaines quand même. Je pense qu'il doit y en avoir 700, quelque chose comme ça.
Ah ouais, pas mal. Mais donc, ce sont des pièces rares quand même. Donc, Yves Van Lathem a toujours le sien sur une clinche. Gabriel qui réalise, tu as un sac? Non, t'as pas? Alison, t'as?
Non, j'aimerais bien.
J'ai pas non plus. Ça existe encore ou pas?
Alors non, parce que j'ai volontairement limité dans le temps la vente. Par contre, moi, il m'en reste quelques-uns, donc éventuellement, on pourrait s'arranger.
Ah, mais alors, quel est le cours du sac Van Lathem de nos jours? Donc, à l'époque, il était vendu combien?
En bitcoin.
Alors, j'ai peur.
De mémoire, il était vendu à 8 euros et les bénéfices étaient reversés à la Fédération des services sociaux. Et
aujourd'hui, parce qu'entre temps, vous savez que c'est devenu une vedette dans le pays, peut-être malgré lui, mais une vedette quand même. Il part à la retraite, donc ça a pris un peu de valeur. Il y a eu l'inflation entre temps, la guerre en Russie, la guerre en Ukraine, les légumes sont plus chers, donc le prix du sac aujourd'hui.
Je pense pas qu'il y ait un cours pour le tote bag, mais a priori, il y a pas de raison qu'il ait changé de prix. Je pense que c'était plutôt un clin d'œil. Et je savais que Monsieur Van Lathem avait de l'humour, donc je me suis permis. D'ailleurs, je lui avais envoyé un mail et il l'a reçu d'ailleurs.
Vous connaissiez, vous saviez qui était le papa de vos sacs.
On avait déjà correspondu à une reprise, effectivement, dans ce contexte-là, pour voir un petit peu où on en était. D'ailleurs, c'est un sac que j'ai signé et dédicacé à pas mal de monde. Je pense qu'effectivement, j'ai dû faire au moins une centaine de dédicaces. Dans l'hôpital, bien sûr, ça c'est assez facile, ouais. Que par-ci, par-là, quelqu'un d'autre qui voulait une dédicace.
Ah ben, quand je vous dis qu'un Bel sur deux doit avoir soit un selfie, soit un sac avec Monsieur Van Lathem, de fait. Merci d'être venu sur Bel RTL ce matin, Kettle. Vous êtes l'homme qui était caché derrière ce fameux tote bag. Pièce collector, donc si j'ai bien compris. Blague à part, on sait très bien que quand les pièces sont rares, numérotées et collector, elles prennent de la valeur. Ça, c'est l'homme de coûte que coûte qui vous le dit. Gérald de Palma sur Bel RTL, qui nous emmène où? Au paradis.
enfants auront grandi. Vivre seul semble peut-être, c'est une question de survie.
Je vais vous le dire, on l'a échappé belle au paradis, parce que Yves Van Lathem, excusez-moi de venir avec des histoires tristes, mais il a failli y passer. Vous êtes dans cet avion de Brussels Airlines ?
De Brussels Airlines, effectivement.
Qui survole la campagne flamande quand tout à coup, le tout prend feu. C'est une vraie histoire ?
Tout à fait, c'est une vraie histoire. J'allais vers le Congo, c'était Kinshasa, si je ne me trompe, et dans un Airbus A330, donc ceux qui n'ont que deux réacteurs, pas quatre réacteurs. On part très gentiment et je suis à droite le long du hublot et effectivement, quelques minutes après le décollage, un bruit un peu sec et sourd comme ça. Et je regardais justement à l'extérieur le paysage et il y a une flamme qui est sortie effectivement du réacteur de droite. Un tout petit peu de fumée, pas beaucoup, hein, pas le grand machin dans lequel la gigantesque flamme et tout. Et puis, une certaine sidération. On peut se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, tout en voyant très bien ce qui se passait. Mmh. Heureusement, on voit pas le machin qui se met à flamber, donc on est un petit peu rassuré. Et puis, au bout de une ou deux minutes, on a une intervention effectivement par micro qui nous dit que, ben oui, il y a eu un problème technique avec le moteur droit qu'il a fallu arrêter et que donc on va venir se reposer à Zaventem. On a fait tout un tour pour se reposer à Zaventem. On s'est reposé comme à l'époque où moi j'ai fait mon service militaire. On appelle ça des batavias, c'est-à-dire des alertes sur l'aéroport. Et donc on se pose entouré de non seulement des pompiers, de l'ambulance qui vous suivent sur la piste d'atterrissage. Il s'est rien passé d'autre. La seule chose, c'est que l'avion n'est pas reparti le jour même et qu'il est reparti le lendemain. Et qu'on est quand même reparti, je pense, quasi tous, parce que l'avion était aussi plein. Mais c'est vrai que ça frappe malgré tout, même si c'était pas le grand machin comme la porte qui s'arrache de certains Boeing.
Dangereux quand même. Et en plus, c'est que ta musique triste derrière, c'est encore plus dramatique. J'avais une boule au ventre, je te jure. Bon, alors, vire-moi ta musique. Dans un instant, on essaye, Yves Van Lathem, de trouver la bonne photo qui peut résumer votre parcours.
Il mériterait d'être dans le journal. Reviens dans quelques instants sur Bel RTL.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts. Serveuse dans le diner à coup des pommes motel. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Qui danse? Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzela. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. Quelle que soit la tendance, pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance, la transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent, pour leur indépendance, qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent, sur champ de résistance, la danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent. Elle danse.
mériterait d'être dans le journal.
Mais quelle est la bonne photo pour résumer Yvan Latem? Une photo qui pourrait peut-être illustrer un article ce week-end dans les journaux Sud-Info. Alors la photo, c'est la photo non pas du Covid, non pas des conférences de presse, c'est la photo de votre jardin. Parce que vous êtes un homme de la nature, un homme vert, votre jardin est entouré par les arbres. On a l'impression que vous habitez d'ailleurs au fond des bois. Vous êtes vraiment au fond des bois ou c'est parce qu'il y a beaucoup d'arbres?
Il y a beaucoup d'arbres, il y a des chênes d'une trentaine de mètres, et donc on est dans une butte boisée, ce qui donne l'impression quand on sort effectivement d'être au fond des bois.
J'ai l'impression d'avoir vu à l'époque dans un reportage toute une série de pots et de plantations. Et je me suis dit, est-ce que ça c'est Monsieur Van Latem qui plante ou c'est Madame?
C'est Madame qui plante. Moi je tonds, ouais. Je coupe, je fais du gros œuvre, mais les choses de détail, les fleurs, c'est Madame.
J'ai du mal à vous imaginer en fait retraité dans votre jardin regardant les papillons voler. J'ai du mal à imaginer que ce sera ça votre vie à partir du 31 mai.
Ce sera pas vraiment ça ma vie, au sens que d'abord je dois ranger beaucoup de choses, entre autres mon bureau, ça me mettra au moins quelques semaines, parce que mon bureau est un ensemble de piles de bouquins et de papiers, et le Covid n'a rien amélioré à tout ça.
De livres lus ou de livres stockés?
De livres stockés, bien sûr, bien sûr.
Donc à lire.
À lire, j'en ai pour deux vies encore au moins.
Mais ce travail que vous avez au Conseil supérieur de la santé, c'est un travail qui vous prend combien de temps? Parce que là vous êtes encore en charge et en pleine charge, ça vous prend combien de temps sur une semaine, sur un mois?
Non, soyons honnêtes, chaque semaine, ça me prend au maximum quelques heures, entre 2 et 6 heures, va-t-on dire, par semaine, au grand maximum. C'est effectivement la direction du Conseil supérieur de la santé, mais la structure fonctionne très bien toute seule. C'est plus de jouer un petit peu le chef d'orchestre, mais l'orchestre se suffit à lui-même.
Mais donc, vous allez vraiment récupérer du temps en termes de journée, de plage horaire, parce que vous n'irez plus à l'hôpital Saint-Pierre à la consultation à Travel Clinic, vous allez récupérer des plages horaires.
Alors, je vais récupérer à peu près 3 demi-journées par semaine, plus tous les trajets aller-retour vers Bruxelles, et on sait ce que ça veut dire d'aller vers Bruxelles actuellement.
La trouille ou pas de la retraite? On se rend pas compte, et on est un poil plus jeune que vous, là.
Pas tout à fait la trouille, non, parce que j'ai déjà une préparation, puisque j'ai déjà une première retraite depuis 2017, hein, par rapport à une activité full-time. Mais comme ça a été très chargé, et que maintenant, après le Covid et ceci, ça va être très déchargé, une petite crainte malgré tout, mais les voyages d'une part, le fait d'aller donner cours en Afrique d'autre part, comme je le fais depuis tout un temps, tout ça va m'occuper.
Ah ben écoutez, je me demande si tous les retraités du pays ont une crainte ou sont comme vous un peu préparés. Appelons un autre retraité. Puisqu'on a appris ce week-end au moment du Télévis que notre Jacques Van Den Bigelaar d'RTL TVI partait lui aussi à la retraite le 31 août. Bonjour Jacques.
Bonjour Benjamin, comment ça va?
Écoutez, on s'est dit qu'on organiserait avec Alison une fête des retraités. Donc il y a Yvan Latem à la retraite numéro 2. Vous, c'est votre première retraite alors?
Ah oui, même avec 2 ans d'avance. Voilà, j'ai pris la décision de m'en aller maintenant. Et c'est marrant parce que j'écoutais Yves et on a énormément de points communs, la passion des voyages, la passion de la vie. Alors moi, je suis pas du tout médecin, hein. Faut pas venir chez moi, je vais aller chez lui parce que j'ai un grand rhume. Mais oui, voilà.
On va faire les interviews comparées. Prochain voyage planifié. D'abord, Monsieur Van Latem, il y a déjà un truc planifié ou pas?
Alors normalement, un petit tour de quelques semaines au Sénégal au mois de novembre.
Quelques semaines Sénégal. Monsieur Van Den Bigelaar, un truc planifié ou pas?
Rien du tout. Rien du tout pour le moment. Non, parce que c'est au mois d'août, et donc l'été, ce sera RTL. Et donc après, après c'est open bar. Hein, on a un déménagement à faire. Je quitte Bruxelles, comme disait Yves. Bruxelles est compliqué, très compliqué. Il faut brûler Bruxelles. Et donc, je pars sur mes terres en Ardennes. Donc la priorité, ce sera faire du Bruxelles Ardennes, et surtout du Ardennes-Bruxelles, c'est horrible.
Ah ouais, non, mais alors vous avez vraiment des points communs, c'est le repli. Vous allez vous replier alors dans la maison Yvan Latem, là où Jacques se replie dans les Ardennes. Ça, c'est assez drôle. Jacques, est-ce que vous avez, comme Yvan Latem, une pile de bouquins non lus?
Non, pas trop. Plutôt des e-books, parce que c'est vrai que je suis depuis longtemps passé du papier à l'e-book. Donc ça, oui, mais il faut que je les retrouve, parce que Alison, elle me connaît bien, elle sait que j'ai pas beaucoup d'ordre, et donc il faut... Alison, où sont mes clés USB?
Ouais, il va falloir stocker. Alors, Yves
avec le déménagement, on a tout perdu. Hein,
ah, il faut voir ce que vous allez reprendre de votre bureau, Jacques, parce que Yves l'a dit tout à l'heure, lui, il va reprendre des maquettes d'avions et une fresque, un tableau de son bureau, c'est de la décoration personnelle. Vous, dans votre carton, vous emporterez quoi le 31 août?
Winnie l'ourson.
Ben, vous savez qu'à RTL, on n'a plus d'armoire depuis 2018, donc c'est plus grand-chose. Mais c'est une cloche suisse, la cloche qu'on m'avait offerte lors d'un tournage en Suisse, une cloche de vache, là, vous voyez, et je l'offre à qui veut. Voilà, elle est dans mon armoire, vous pouvez vous servir. Et pour le reste, c'est que de la paperasse qui va finir en poubelle papier. Quoi.
Ah, et alors, blague à part, c'est une vraie conversation, ça n'a pas l'air, mais c'est une vraie conversation. Vos milieux d'amis respectifs aujourd'hui, est-ce qu'Ivan Latem, vos amis, vos proches, ce sont tous des gens retraités ou vous avez au fil du temps réussi à avoir des générations d'amis d'âge différents et donc vous vivez avec des gens d'âge différents ou non, vos amis bien, sont alignés?
Je dois bien dire qu'ils sont alignés et qu'effectivement mes amis ont entre 55 et 75 ans.
Ouais, et vous, Jacques?
Oui, effectivement, les gens qu'on voit depuis le plus longtemps possible, ce sont des gens que j'ai connus à l'école, j'en vois régulièrement. Mais sinon, comme j'ai des enfants et des petits-enfants, voilà, sont venus se greffer à ça des nouveaux amis. Et puis, il y a tous les gens du tournage aussi. On fait, hein, vous le savez bien, Benjamin, on rencontre beaucoup de gens. Ça crée parfois, alors pas à chaque jour et pas à chaque tournage, mais des petites amitiés, des gens qui savent que maintenant, ils auront du temps pour enfin me voir et moi pour les voir. Voilà, donc oui, c'est le côté avantageux de ce métier aussi.
Bon, les battles, les hommes, ils aiment bien comparer entre eux. Alors, chacun donne ses stats. Combien d'enfants pour vous, monsieur Van Lathem?
Un.
Un. Et chez vous, monsieur Van Den Bigelaar?
Quatre. Et quatre petits-enfants.
Ah ouais, Jacques, là, sur ce... Où là prend le point.
Trois petits-enfants, donc je suis battu là aussi.
Ah, désolé, monsieur Van Lathem, c'est Jacques Van Den Bigelaar qui prend le point. Monsieur Jacques, je note dans un coin de la tête qu'avant de partir, il faudra venir dire bonjour, donc il mériterait d'être dans le journal, d'accord?
Ah bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. J'adore cette émission.
Ah bah non, c'est pas pour ça. C'est parce que je me dis que vous avez quand même deux, trois petits trucs à raconter, ça fera plaisir de se dire au revoir en vrai. Jacques, à la prochaine, merci beaucoup.
Merci beaucoup et bonne émission. Au revoir, Yves.
Bye bye.
À la prochaine. Bon, alors, c'était l'amicale des joyeux retraités, alors qui était sur Bel RTL. Lenny Kravitz. Et puis, on essaiera de trouver un titre qui résume la vie de Monsieur Van Lathem. Ça va être compliqué parce qu'il en a tant fait, tellement fait, qu'il faut bien un petit Kravitz pour réfléchir. Réfléchir deux secondes avec toutes ces histoires de retraite, mais les médecins en général gardent toujours une petite consultation privée. Vous allez garder une petite consultation privée ou pas, monsieur Van Lathem?
Alors je pense que je garderai une petite consultation privée, comme vous dites, effectivement, pas loin de chez moi.
Les médecins, ils arrêtent jamais vraiment, c'est comme ça. J'ai écrit deux, trois titres, ça vaut ce que ça vaut, j'affine pendant la pub, et on essaie de trouver la bonne formule pour résumer l'ancien porte-parole interfédéral Covid.
While that it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.
And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Il mériterait d'être dans le journal.
Mais quel est le bon titre pour résumer Yves Van Lathem? Il y a du tac au tac, parce qu'on va pas reparler du Covid à l'infini, mais le plus grand souvenir ou la plus grande crainte quand vous étiez porte-parole interfédérale, c'était quoi? C'était de se présenter devant le public et de devoir dire des choses? Ou c'était d'incarner la bonne... Qu'est-ce qui était le plus vertigineux?
Bon, c'était effectivement, comme pour tout le monde, d'avoir la crainte d'être un moment où on devait annoncer qu'on était dépassé éventuellement. Ce que, heureusement, on n'a pas été. On n'a pas été le Titanic. D'une certaine manière, on a coulé, bien sûr. On a eu énormément de victimes. Mais le bateau de la santé publique n'a pas complètement coulé. Je pense que c'était la crainte de devoir un jour se présenter en disant, là, on est un pas trop loin.
Ouais, ça, vous avez vraiment eu peur de ça. C'était une peur physique, quoi.
J'ai eu peur physiquement de ça, au moins durant les... Pas tellement lors de la première vague, parce que j'ai repris la première vague fin avril au bon moment, mais durant la deuxième vague, j'ai vraiment eu peur qu'à un moment on soit dépassé.
Quel est le bon titre pour résumer Yves Van Lathem? Votre conseillère média s'appelle Alison. Alison Del Rey, aidez-nous à choisir le titre qui peut résumer, qui nous permettra peut-être d'écrire un article ce week-end. Alors soit je mets, il a vécu ce qu'aucun virologue n'a jamais vécu. Eu égard à cette médiatisation, le job de porte-parole. Il a vécu ce qu'aucun virologue n'a jamais vécu. Soit je mets mal aimé. Il était le mal aimé. Parce qu'on l'a beaucoup raillé, malgré lui, avec ce bazar-là. Ou alors je mets le retraité tristouné.
Je mettrais le premier.
Il a vécu ce qu'aucun virologue n'a jamais vécu. Attends, le conseillère média arrive en retard. Ah, mais quelle est votre excuse, conseillère média? Corman,
j'étais occupée, je préparais des choses. Bonjour, monsieur Van
Lathem. Bonjour, bonjour.
Sandrine Corman,
il va. Oui,
c'est marrant, on a tous l'impression de vous connaître. On a vécu un peu avec vous à un moment donné de notre vie.
J'étais dans le milieu, j'étais dans le potage de tout le monde.
Statistique Bellertel, un Belge sur deux, un selfie avec Yves Van Lathem ou un sac. Donc il a vécu ce qu'aucun virologue n'a jamais vécu, un retraité tristouné ou mal aimé, il était le mal aimé. Alison préfère, il a vécu ce qu'aucun virologue n'a jamais vécu.
Oui, moi aussi.
Oui, parce que t'es quand même extraordinaire comme destin. Ouais. Vous prendriez quoi, vous?
Alors je prendrai effectivement le premier, parce que tristounet, je le suis un petit peu, mais c'est tout, ça passera. C'est comme quand on part en voyage et puis on oublie au bout de 5 minutes. Le mal-aimé, je l'ai pas vécu tel quel, même si c'était le cas. Et je pense qu'effectivement, ceci est un peu, je l'ai déjà dit à plusieurs fois, un peu le cadre autour de ma vie professionnelle. C'est un tableau, notre vie à tous, on fait un certain tableau qu'on aime ou qu'on n'aime pas, soi-même ou les autres. Et puis ça a été un cadre, on peut ne pas aimer le cadre comme autour du tableau, ça c'est autre chose. Mais c'était un petit peu quelque chose que peu ont. Ce cadre-là, je pense que peu long. Alors, je n'aurai aucune gloire, mais c'est simplement un fait.
Ah, c'est le destin qui est comme ça. Voilà. Et comme c'est votre deuxième fête de retraite, puisqu'il y a eu la première retraite, mais là, c'est votre deuxième, que le gars, il a trouvé le filon pour chaque fois avoir des fêtes de retraite, j'applaudis le retraité.
Merci.
Yvan Latem, qui mérite vraiment d'être dans le journal. Bonne journée.
Hésite entre tout dire.